Le berceau de l'histoire. Jean-Pierre Constantin.
Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de Carthage. Carthage, vous savez, la fille de Tyr, la grande ville du sud de la Méditerranée. Carthage qui a été détruite par les Romains après trois longues guerres entre Rome et Carthage. Alors, pour en parler, j'ai invité aujourd'hui un historien tunisien, franco-tunisien, Khaled Melliti. Vous êtes historien, vous êtes chercheur et vous êtes auteur d'un livre remarquable et remarqué sur Carthage, paru aux éditions Perrin. Vous parlez de la Carthage hellénique. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif ?
Non, je ne parle pas de la Carthage hellénique, en fait. Je parle de la place qu'a occupée l'hellénisme dans l'essor méditerranéen de la métropole méditerranéenne qui était Carthage. J'étudie en fait à la fois les apports et puis les réactions. Je m'oppose justement à cette vision sur les pas de glorieux prédécesseurs. Je m'oppose à cette vision d'une hellénisation profonde et irréversible de Carthage précisément.
Alors on dit que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Carthage en est l'exemple le plus flagrant. On connaît Carthage par sa défaite face à Rome et par sa destruction carrément par les Romains. On ne va pas réécrire l'histoire, vous ne réécrivez pas l'histoire, mais vous apportez ce qu'on appelle dans notre métier un contre-champ, un autre regard, un regard différent sur l'histoire de cette ville, de cette grande puissance de l'Antiquité. Carthage, pour situer un petit peu, c'était entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, vous me corrigerez si je me trompe. C'est une ville qui a été fondée par les Phéniciens, donc venus de Tyr, venus de l'Orient de la Méditerranée, et qui a pris petit à petit une place prépondérante en Méditerranée.
Alors je voulais revenir sur les dates que vous avez proposées, c'est entre le 9e siècle, la date classique, on la situe d'après une tradition littéraire qui a été plus ou moins corroborée par investigations archéologiques, cette date classique c'est 814 avant Jésus-Christ. Mais il est vrai que l'apogée de Carthage en Méditerranée se situe entre le 6e et on va dire la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ.
On connaît Carthage par les guerres puniques, par la guerre avec Rome, mais avant ça, il y a eu des interactions, beaucoup d'interactions avec la Grèce, avec les différentes cités grecques et les différentes peuplades grecques. Il y avait beaucoup d'échanges. Vous décrivez, en tout cas c'est l'impression qu'on a quand on lit votre livre, vous décrivez une sorte de « je t'aime moi non plus » qui existait entre les deux rives de la Méditerranée, Carthage étant un des acteurs principaux et les Grecs étant l'autre acteur en face. Qu'en est-il exactement de cette relation entre Carthage et les cités grecques ?
Alors tout d'abord, Carthage s'inscrit dans les pas de ce qu'on peut appeler l'ambivalence phénicienne, comme vous l'avez précisé en introduction. C'est une cité de fondation phénicienne et les Phéniciens très tôt ont eu des rapports assez compliqués avec les Grecs. Alors les rapports de Carthage avec les Grecs, elle s'inscrit dans un cadre, si vous voulez, assez idéologique de la part des Grecs, puisque les Grecs ne concevaient leur rapport avec l'autre qu'en fonction de la proximité avec l'oïkouméné grec, c'est-à-dire la centralité grecque, si on veut. C'est-à-dire que si on ne parlait pas le grec et si on ne vivait pas à la grecque, on était considéré comme barbare. Et les Grecs ont souvent considéré les Carthaginois comme des barbares jusqu'à peu près au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. En réalité, ils les ont toujours considérés comme des barbares. Mais la vision qu'avaient les Grecs sur Carthage s'est assouplie, on va dire, aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'on a remarqué un intérêt accru de la pensée grecque sur la chose carthaginoise. On a par exemple des pièces de théâtre sur les Carthaginois, il y a eu des traités sur l'artisanat carthaginois. Bref, un intérêt prononcé et accru sur la chose carthaginoise qui a permis d'assouplir les relations entre les mondes grecs et les mondes puniques, on va dire. Et ces relations trouveront, si vous voulez, leur apogée justement durant les guerres puniques, sans pour autant arriver à une alliance militaire ou politique. Mais disons que au-delà de la sourde, pas haine, mais la sourde opposition aux Carthaginois, il y avait dans les mondes grecs une sorte de position plutôt favorable aux Carthaginois contre Rome, du fait justement que Carthage était vue comme une cité qui ressemblait aux Grecs. On a par exemple un auteur grec de Cyrène, Ératosthène, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui plaçait les Carthaginois dans le monde des civilisés et qui considérait Carthage comme une cité au sens propre du terme, une cité grecque, si on veut. Et on peut mesurer le chemin parcouru depuis Hérodote au Ve siècle, puisque Hérodote les considérait comme des barbares en puissance, les Phéniciens et les Carthaginois.
En deux siècles, le regard grec sur les Carthaginois a changé. Est-ce que c'est lié aussi au regard grec sur les Phéniciens ? Qu'est-ce qui explique ce changement de regard ? Pourquoi est-ce que les Grecs, subitement, se sont mis à considérer les Carthaginois comme plus proches, pas comme des barbares ?
Alors, d'une part, c'est dû justement à la fin des guerres entre les Grecs et les Perses. À partir du moment où la menace perse s'est éloignée, disons que, je veux dire, la vision politique des Grecs s'est un peu assouplie. Mais la raison première, c'est justement le fait que les Carthaginois ont offert aux Grecs une plateforme culturelle qui se rapprochait de plus en plus de l'idéal que pensaient avoir les Grecs, si vous voulez, l'idéal culturel, l'idéal sociétal. Ce qu'on a cru longtemps comme une idéalisation de Carthage a permis justement de voir les Carthaginois autrement. Alors, aussi bien dans l'architecture que dans la langue, que dans les, si vous voulez, au niveau de la constitution également. La constitution carthaginoise était vue comme une constitution très très élaborée. Tous ces éléments ont permis justement un rapprochement, une vision autre des Carthaginois par les Grecs.
Vous dites les Grecs, mais les Grecs, c'était des cités rivales entre elles, parfois ennemies entre elles, qui se faisaient la guerre. Alors, on connaît très bien la rivalité entre Carthage et Rome, mais on connaît moins la rivalité qu'on voit très bien dans votre livre entre Carthage et Syracuse, qui était une ville grecque. Donc, les bons rapports étaient avec les Athéniens et les mauvais rapports étaient avec les habitants de Syracuse, ou je me trompe ?
Alors, ça a évolué, en fait, dans le temps. Il faut séparer, en fait, les rapports entre l'Orient hellénistique, l'Orient gréco-macédonien et l'Orient occidental. Les relations avec l'Occident grec étaient beaucoup plus souples que ceux avec l'Orient grec. Alors, à partir du moment où les Grecs se sont débarrassés donc de cette idée de menace perse et des menaces émanant également des monarchies gréco-macédoniennes. Et avec l'insertion, si vous voulez, des mondes puniques dans la koiné, en fait la koiné c'est le monde grec, on peut dire que les relations se sont détendues, les échanges commerciaux se sont intensifiés, l'introduction de la monnaie dans les systèmes d'échange entre Grecs et Puniques ont permis justement cette intensification des échanges commerciaux qui se sont accompagné justement d'un rapprochement également politique. Dans l'Occident grec, matérialisé notamment par, les velléités hégémoniques de Syracuse, ça a pris un peu plus de temps dans la mesure où il a fallu attendre la fin de la puissance syracusienne pour que les relations se distendent.
Oui. Pardon, Syracuse, c'est une ville grecque, donc de Sicile.
De Sicile, exactement. C'est une ville dorienne, fondation corinthienne, on peut dire.
Alors que la Sicile a été pendant longtemps sous domination carthaginoise. C'est Carthage qui dominait la Sicile.
L'ouest sicilien a été sous domination carthaginoise, parce que Carthage, en fait, n'a jamais voulu en fait conquérir toute l'île. Ça ne l'arrangeait pas trop, dans la mesure où la Sicile était une plateforme d'échange idéale pour Carthage. Ça lui permettait justement d'avoir une sorte de zone franche avec les mondes grecs en général, et ce, par la proximité, justement.
Alors, quand on vous lit, on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de faire des analogies, des parallèles avec le monde actuel. Vous dites, je vous cite, « Les Tunisiens, aujourd'hui, superposent les Carthaginois adaptés pour aboutir à un produit original, matériel et spirituel. » Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ?
Alors oui, je suis un peu... Je suis un peu rude et un peu excessif peut-être dans le propos, mais si on regarde un peu, les apports n'ont pas débouché sur des productions originales ou un progrès technique ou technologique ou quelque chose de ce genre-là. En fait, bon, la comparaison portait surtout pour mettre en évidence la créativité carthaginoise dans ce domaine. On s'aperçoit effectivement que les apports grecs permettent de catalyser des potentiels techniques, artistiques, de la production civilisation carthaginoise dans sa globalité.
Alors, vous dites que le regard des Grecs sur les Carthaginois a évolué au fil du temps, au fil des siècles. Est-ce que le regard des Carthaginois, eux, sur les Grecs, a évolué aussi? Est-ce qu'ils ont perçu les Grecs autrement?
Alors, c'est très difficile à répondre à cette question, dans la mesure où on n'a pas le point de vue des Carthaginois d'une manière générale, que ce soit pour les Grecs, les Romains, parce qu'on n'a pas de texte proprement dit qui nous permette justement d'évaluer cette perception des Carthaginois. Mais on peut le deviner par justement cette adhésion enthousiaste à tout ce qui est grec dans la société carthaginoise. On peut le dire, les Carthaginois adhéraient ouvertement à l'art grec, à la décoration grecque, à l'architecture grecque, et même aux idées politiques grecques.
Parlons-en, quand vous dites les idées politiques grecques, plus exactement.
Notamment par les Barcides, qui ont développé... C'est la famille d'Hannibal, on les appelle les Barcides, parce que le père d'Hannibal s'appelait Hamilcar Barca, donc la famille, on les appelait les Barcides. Voilà, Barca voulant dire la foudre, en fait, en punique, en sémite.
Et ça, c'était le...
Le 3e siècle avant Jésus. Alors il faut savoir que Carthage c'est une cité républicaine, oligarchique, et on a vu un petit groupe de la haute aristocratie qui dominait clairement une haute aristocratie marchande, qui ne rechignait à faire la guerre et qui n'était pas très portée sur les choses militaires. Or la situation en Méditerranée occidentale imposait justement une reconsidération de la mentalité globale de la société. Et c'est là justement où les Barcides intervenaient, puisqu'ils proposaient un modèle politique qui pouvait répondre à ces dangers immédiats qui se présentaient à eux. Alors cette solution politique, ils se sont inspirés là des monarchies gréco-macédoniennes, dans la mesure où les monarchies gréco-macédoniennes proposaient une solution et avaient donné les preuves justement de l'efficacité de leur politique, dans la mesure où ils avaient réussi à établir une hégémonie politique en Orient hellénistique. Alors cette pensée politique est simple, les Barcides du moins l'avaient proposé sur le plan politique, c'était de concentrer au sein d'une même direction les affaires politiques et militaires pour des raisons pour optimiser en fait le potentiel militaire carthaginois. Ils auront l'occasion de le mettre en œuvre pendant les guerres puniques avec les résultats qu'on sait, puisque Hannibal est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire militaire, qu'il a pu prouver militairement qu'il était en mesure de contenir la puissance romaine. Mais ça n'a pas pu aller jusqu'au bout à cause justement de l'opposition de l'aristocratie traditionnelle.
Mais lorsque vous dites que les Barcides donc, ont copié le modèle grec, d'abord ils le connaissaient comment, et puis ça correspond à quoi?
Alors Hannibal, il la connaissait parce que déjà c'était un membre de la haute aristocratie, il avait reçu une éducation, on va dire, gréco-punique. Son père Hamilcar lui avait adjoint un précepteur spartiate, puisque les spartiates étaient considérés comme les maîtres de l'art militaire à cette époque-là, Sosilos. Donc on pense qu'il a pu avoir accès aux œuvres littéraires de spécialistes militaires qu'ont été, par exemple, Pyrrhos des Pyrrhes, le roi des Pyrrhes, qui est l'actuelle Albanie, en gros, dans cette région-là. On pense également qu'il a étudié les schémas militaires d'Alexandre le Grand. Donc, à ce niveau-là, on est à peu près sûr. Et puis, on le voit, de toute manière, dans la stratégie ou les tactiques adoptées par Hannibal, même si c'était des stratégies, des tactiques originales, qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est vu auparavant dans le monde grec ou gréco-macédonien. Il n'en reste pas moins qu'il s'est inspiré de schémas militaires grecs.
Alors, il y avait aussi beaucoup de fascination pour l'artisanat et pour le mode de vie grec. On a retrouvé beaucoup d'objets grecs à Carthage. Qu'est-ce qui explique? C'était un phénomène de mode? Ou bien est-ce que c'était aussi une qualité de fabrication particulière?
Alors, les mondes grecs, et précisément Athènes, enfin les grands centres d'artisanat et de culture grecque, étaient un foyer créateur de culture et d'art en Méditerranée depuis le 6e, 7e siècle. Même si on sait que les mondes grecs ont beaucoup emprunté au monde mésopotamien et au monde égyptien, disons qu'ils ont réussi à imposer une culture artistique au reste du monde méditerranéen, qui ont été très séduits par tout ce qui était proposé dans les mondes grecs. Et Carthage n'a pas échappé à cette séduction. Donc c'est la raison raison pour laquelle elle s'est ouverte pleinement à la chose artistique grecque.
Et dans le conflit qui a opposé Rome à Carthage, quelle était la position des cités grecques? Est-ce que les Grecs ont fait, ils ont pris parti pour le frère romain, frère entre guillemets, ou bien est-ce qu'ils sont restés neutres? Quelle était leur position?
Alors, la situation sicilienne le montre très bien lors de la première guerre punique, puisqu'on s'aperçoit que lorsque Rome déclenche la guerre contre Carthage en intervenant en Sicile, malgré un traité qui réservait à Carthage l'hégémonie en Sicile, enfin la domination en Sicile, on s'aperçoit que les premiers réflexes des cités grecques, réflexes mécaniques, a été de se ranger derrière les Puniques. Derrière les Puniques, parce qu'ils connaissaient les Puniques, ils avaient des siècles de cohabitation avec les Puniques, et ils savaient qu'ils ne représentaient pas une menace mortelle, dans la mesure où Carthage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle n'avait pas pour objectif de s'emparer de la Sicile entière. Tout ce qui l'intéressait, c'était de dominer la Sicile occidentale. Donc le réflexe premier, c'était de se ranger derrière les Carthaginois, et s'ils se sont rangés derrière les Romains, c'est plus par pragmatisme, parce qu'ils se sont aperçus que, militairement, Rome... avaient balayé, on peut dire, de la première guerre punique, ils avaient balayé les forces puniques. Donc, par pragmatisme, ils se sont tout de suite rangés avec les Romains. Lors de la seconde guerre punique, on s'aperçoit également que, par pragmatisme également, au début, les cités grecques étaient très réservées, ils étaient très attentistes, ils n'ont été ni pour l'un ni pour l'autre. Mais après la bataille de Cannes, on peut dire que la majorité des cités grecques se sont rangées derrière Hannibal.
La bataille de Cannes
La bataille de Cannes qui opposait les Romains et les Carthaginois en 216 avant Jésus-Christ. Alors Cannes, ce n'est pas la Cannes française, c'est la Cannes qui se trouve en Apulie, au sud de l'Italie, près de Barletta. C'est sur la côte adriatique.
Et donc, en fait, la politique grecque était très opportuniste et elle changeait en fonction des données sur le terrain.
Oui, un peu comme toutes les puissances de l'époque. Hein. Puisque les Grecs vivaient à cette époque-là dans le souvenir de l'hégémonie qu'avaient pu avoir les Grecs à l'époque archaïque. Donc, ils étaient dans une position plus ou moins attentiste. Et je veux même aller plus loin. Ils ont même considéré Hannibal comme le potentiel héros qui les sauverait de la domination romaine au IIe siècle avant Jésus-Christ. Parce que les Romains, après s'être débarrassés des Carthaginois lors de la Seconde Guerre punique, sont intervenus, ont dominé le monde grec. Et s'est développée à ce moment-là une littérature, on va dire, qu'on appelle sibyllique, c'est-à-dire une sorte de littérature prophétique. On a retrouvé des romans, une sorte de littérature romanesque qui présentait Hannibal comme le héros qui les sauverait du joug romain. Et avant Hannibal, ils avaient trouvé d'autres héros, hein, semi-barbares, semi-grecs, qui présentaient quand même un matériau grec, qui présentaient quand même une façade grecque comme Hannibal. Hein. Hannibal, comme je vous l'ai dit, avait une éducation gréco-punique. Donc ça leur a permis d'être acceptés comme potentiels héros qui sauveraient la grécité de l'agression romaine de l'époque.
Vous avez parlé tout à l'heure de la présence de personnages puniques dans les pièces de théâtre grecques. C'était quel type de personnages? C'était des personnages respectables, respectés, ou c'était plutôt des personnages moqués?
Alors, avec une moquerie, oui, quand même. Ils étaient assez moqués, oui. Assez moqués. Alors, on peut le voir très clairement dans l'œuvre de Plaute, qui est un auteur latin. Je vais rebondir sur le monde grec, dans la mesure où Plaute s'est inspiré de pièces de théâtre athéniennes du IVe siècle, notamment d'auteurs comme Ménandre ou Alexis. C'était des auteurs comiques grecs qui avaient fait des œuvres sur les Carthaginois. Et lorsqu'on lit Plaute, l'œuvre s'appelle le Poénulus. Poénulus, ça veut dire le petit punique. Donc, on s'aperçoit que le personnage est croqué de manière un peu comique et puis qu'il était un peu moqué quand même. Mais gentiment, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on pouvait voir chez Homère ou Hérodote, hein, du phénicien rapace ou alors du punique chez Homère ou ville, enfin avec toutes les caractéristiques qu'on connaît aux phéniciens.
Méchant.
Oui.
Vous avez parlé aussi de la fascination des Carthaginois pour les Grecs, pour la culture grecque, pour l'artisanat grec. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce qu'il y avait en Grèce un intérêt particulier pour ce qui se faisait à Carthage? Est-ce que les Grecs s'intéressaient aux techniques carthaginoises, aux inventions carthaginoises?
Certainement, on a un traité sur les tissus et les broderies carthaginoises qui étaient réputés pour l'époque. On a également un intérêt pour tout ce qui est lié au monde, j'allais dire entre guillemets textile, hein, même si c'est pas le mot approprié, ou alors à ce qu'on appelle la pourpre. La pourpre était très appréciée dans les mondes grecs.
Donc la pourpre, c'est un produit qui provient
du murex, d'une sorte de coquillage qu'on retrouvait dans les côtes méditerranéennes très communément. Mais il y avait une technique justement pour en tirer la substance et en faire cette couleur qui était très prisée, notamment par les aristocraties méditerranéennes.
Donc il servait à teinter les manteaux, les vêtements en pourpre.
En pourpre, qui était une couleur réservée aux hautes aristocraties à travers la Méditerranée. Mais au-delà de ça, les Grecs également ont bénéficié de la qualité maritime et de navigation des Carthaginois, dans le sens où les Carthaginois ont permis de décomplexer les Grecs par rapport à la haute mer. On sait qu'à l'époque, c'était surtout une navigation de cabotage, c'est-à-dire le long des côtes, mais on s'est aperçu que les Carthaginois ne réchignaient pas à aller en haute mer. Et ils avaient même dépassé ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule, qui sont aujourd'hui le détroit de Gibraltar, et qu'ils ont navigué bien au-delà dans l'océan Atlantique. Alors on leur prête des destinations comme dans le golfe de Guinée, ou alors dans les îles Cassiratides, qui correspondent à des îles non loin de Grande-Bretagne. Et toutes ces navigations-là ont permis justement d'ouvrir les portes aux marins grecs. Donc en termes de navigation maritime, mais également en termes de construction navale, les Carthaginois ont beaucoup apporté.
Et qui dit navigation en haute mer, dit aussi maîtrise de l'astronomie.
Exactement, exactement. Donc il y avait par exemple la partie antérieure de la Petite Ourse, a été nommée la Stella Phoenicia, c'est-à-dire l'étoile phoénicienne. C'est une sorte d'hommage justement à cette maîtrise de l'astrologie ou de l'astronomie par les Phéniciens. Ils se dirigeaient grâce à ce point de fixation dans le ciel.
On connaît la capacité des Phéniciens et des Carthaginois, des Puniques, à naviguer. Il y a deux romans célèbres donc, qui parlent de navigateurs phéniciens. Il y a l'histoire d'Amon, le navigateur. Donc c'est lui qui a traversé Gibraltar, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui Gibraltar, c'était les colonnes d'Hercule.
C'est ça.
Et donc il est allé vers le sud pour découvrir les côtes de l'Afrique.
Exact.
Et puis il y a le pendant qui est allé vers le nord, c'était Himilcon, le navigateur. Alors c'était des histoires vraies ou bien est-ce qu'on a des traces de ces voyages?
Alors on a beaucoup de raisons d'y croire parce que c'est raconté par la littérature grecque. Vous voyez, donc c'est des réminiscences d'écrits probablement puniques. Alors pour le traité d'Annon, il est dit qu'il avait été décroché ou alors qu'on l'avait vu dans le temple d'un grand dieu punique à Carthage. Et le récit, on a des traces de punicité dans ce récit. Mais surtout, ce qui nous permet de dire que c'est les Grecs qui l'ont écrit, c'est que on retrouve des caractéristiques du roman grec de l'époque qui était très porté sur le sensationnel. Si vous avez l'occasion de lire l'histoire d'Annon, on parle de monstres fantastiques rencontrés lors du périple ou ce qu'on appelait les gorillas. Vous voyez, donc tout ça, c'était des éléments dont étaient friands les lecteurs grecs.
On voit aussi en lisant votre livre qu'il y avait entre Carthage et Tyr, donc la ville mère, la ville d'origine des Carthaginois, qu'il y avait une relation très particulière, très forte, qui est restée à travers le temps. Et les Carthaginois ont toujours reconnu cette filiation. Il y a toujours eu, pas dire cette fidélité vis-à-vis de Tyr. C'est un cas particulier ou c'est quelque chose d'assez répandu dans l'Antiquité?
Non, d'une manière générale, c'est très commun dans l'ensemble méditerranéen, ces relations entre cité-mère et cité-fille. Hein, on peut, même dans le pendant grec, on peut illustrer notamment la relation entre Syracuse et Corinthe. Non, c'est très commun. Les Carthaginois ont gardé un lien très profond avec la cité mère Tyr. Elle l'associe même dans les traités qu'elle a pu signer avec Rome. Hein, Tyr est cité, hein, par exemple, dans le traité de 348, où elle défend les intérêts de Tyr en Méditerranée occidentale. Le commerce carthaginois et le commerce tyrien étaient imbriqués. Hein, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à faire une sorte d'association à intérêts communs. Voilà, tu m'aides en Orient, je t'aide en Occident. Et donc, dans les traités, on retrouve Tyr impliqué. Dans des traités romano-puniques ou très certainement gréco-puniques, Tyr était très souvent cité.
Est-ce que cette relation était une relation d'égal à égal ou est-ce qu'il y avait une forme de supériorité carthaginoise? Parce que Carthage, à la fin, était devenue beaucoup plus importante que Tyr.
Oui, certainement. D'autant plus que Tyr était sous domination grecque, elle l'est restée d'ailleurs. Je pense qu'il y avait une relation de respect. Il faut savoir qu'à Tyr, il y avait le grand temple de Milcarte. Et les Carthaginois envoyaient souvent des représentants honorer justement le culte de Mercarte lors d'une cérémonie très spéciale. Ils avaient un jour, c'était plutôt au printemps, où ils allaient offrir des offrandes dans le temple de Milcarte à Tyr. Notamment les prises de guerre. On sait qu'il y a une statue d'Apollon qui avait été Apollon-Hercule, hein, une statue d'Apollon qui a été convertie en statue de Milcarte-Héraclès, puisque c'était la correspondance qu'on faisait à l'époque, et qui a été installée dans le temple de Milcarte à Tyr.
Et Milcarte, c'est la divinité protectrice de Tyr. C'est le dieu
exact.
Tyrien par...
Et dans le monde colonial phénicien en Occident, Milcarte représente justement le colonialisme phénicien en Méditerranée occidentale.
Et même ailleurs. Vous avez dit le mot colonial, les Phéniciens, les Tyriens, mais pas que les Tyriens, et les Carthaginois sont réputés pour avoir fondé toute une série de... Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça des colonies, des comptoirs, des échelles...
Alors, des comptoirs qui sont devenus des colonies, dans la mesure où il y a une population phénicienne qui s'est installée. Alors, il y a eu des colonies, mais il y a eu aussi des comptoirs, c'est-à-dire des comptoirs dans le sens où on n'a pas installé de population phénicienne. Hein. Dans le Carthage, c'est une colonie, puisqu'il y a vraiment eu installation d'une population phénicienne. Mais il ne faut pas l'entendre au sens moderne du terme, et il ne faut surtout pas non plus le comparer au colonialisme, entre guillemets, grec.
Alors, on connaît Carthage par sa force maritime, ce Carthage tourné vers la mer, vers la Méditerranée. Vous révélez un autre aspect de Carthage, c'est Carthage tourné vers la terre, tourné vers l'Afrique. Carthage était aussi une puissance agricole, une puissance qui produisait des produits de la terre.
Exactement, et même très tôt. Très tôt. Alors, on a longtemps cru que Carthage s'était intéressé à la conquête territoriale après 480, c'est-à-dire après leur défaite en Sicile à Himère, justement contre Syracuse. Et en réalité, il n'en est rien, puisqu'il a été prouvé que la production agricole a été crescendo depuis la fin du 7e siècle. Et donc, cette production agricole a également servi à dynamiser le commerce carthaginois, justement.
Ils produisaient pour exporter.
Exactement.
C'était de la production intensive.
Intensive, qui a justement obligé Carthage à servir des populations qui les entouraient, d'où les problèmes notamment avec les Numides ou avec d'autres populations, notamment les Gétules. Carthage, justement, cette politique agricole intensive lui a permis d'exporter notamment des céréales vers Athènes. On a retrouvé un texte épigraphique qui prouvait justement cette donnée-là. Elle exportait également du vin, elle exportait des salaisons de garum, ce condiment de poisson.
Alors, je croyais que le garum était romain, il existait du temps de Carthage.
Voilà, disons que les Romains lui ont donné le nom de garum, mais il existait à l'époque de Carthage. Il a même existé depuis aussi loin qu'on puisse remonter. Il existait depuis l'époque archaïque à travers la Méditerranée. Disons que c'est un plat méditerranéen avec des nuances à droite et à gauche, mais il existait bien à l'époque punique.
Khalid Melite, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Eva Piedel. Merci à vous de l'avoir écouté et à bientôt sur RFI.
Merci à vous.